France Inter, le 6-9 de l'été,
intervenez. Anne Hidalgo, on parlait de pollution, de restrictions de circulation. On a Denis qui habite en région parisienne et qui a une question à vous poser. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Vous habitez où exactement en région parisienne?
J'habite à Auteuil-le-Roi, en banlieue dans les Yvelines. Voilà, alors moi je voulais poser une question à propos de la restriction sur les véhicules diesel assez ancienne qui pénalise en fait... Les gens qui n'ont pas forcément les moyens de changer de voiture, parce que les aides, c'est bien pour les entreprises, etc., mais il faut quand même rouler. Il y a des gens qui, tous les matins, se tapent des kilomètres pour venir travailler en région parisienne, voire à Paris. Et plutôt que de pénaliser, pourquoi pas favoriser? Alors, par exemple, le gaz, parce qu'on en parle dans certaines villes d'Europe, ils ont compris, même en Iran, ils ont compris que le gaz, ça polluait moins.
Gaz naturel.
Pourquoi pas en tant que gaz naturel? Pourquoi en tant que maire de Paris dire voilà à partir de 2020-2022, donc laisser le temps aux gens de s'organiser, les taxis parisiens par exemple, une flotte assez importante, doivent rouler au gaz. Du coup, les pompes qui sont autour de Paris feront du gaz, donc du coup les gens achèteront du gaz et petit à petit on roulera dans une énergie vraiment propre et pas l'électricité qui aujourd'hui c'est un fantasme. Qui achète une voiture électrique tous les jours pour aller travailler, pour faire des kilomètres? Il vous faut 3 jours pour descendre, pour faire 500 kilomètres. Donc vraiment des choses concrètes, vraies, normales, quoi. Des trucs qui parlent aux gens.
Dans
des choses.
Voilà. Denis, vous n'êtes pas tout seul à poser ces questions. Il y a beaucoup de questions là-dessus, Anne Hidalgo.
D'abord, on n'a pas attendu, bien évidemment, les solutions alternatives. Vous avez raison, le gaz, l'hydrogène sont vraiment des sources nouvelles. On a ouvert d'ailleurs une station d'approvisionnement dans Paris et une flotte de taxis avec une petite start-up qui s'est montée et qui est en train aujourd'hui de réussir sur Paris, une flotte de taxis sur ce type d'énergie. On est aussi dans les aides qu'on donne en tant que ville de Paris aux taxis. On favorise bien sûr l'achat de taxis hybrides, au gaz ou électriques. La mobilité électrique, ce n'est pas du gadget, excusez-moi du peu, mais aujourd'hui, un système d'autopartage comme Autolib avec toutes les bornes d'approvisionnement qui sont installées et qui sont ouvertes à tous les véhicules électriques, puisque la cinquième borne est ouverte à tous les véhicules qui ne seraient pas des autolibres pour pouvoir être rechargés. Aujourd'hui, ce système fonctionne avec 91 communes sur l'Île-de-France, Paris, la Petite Couronne, mais aussi quelques villes de Grande Couronne qui se sont inscrites là-dedans. Donc on est en train de travailler et de façon très très active et très rapide, bien évidemment, qu'on n'est pas dans la caricature de prendre des mesures de restriction sans proposer d'alternative. Et enfin, les aides existent aussi pour les particuliers. Ce n'est pas que pour les professionnels. Et les aides, par exemple, de la ville de Paris sont cumulables avec celles de l'État, y compris pour les particuliers. Dernière chose, le sujet numéro un de cette métropole du Grand Paris et de la relation Grande Couronne et Petite Couronne, c'est quand même le sujet des transports en commun. Et c'est là qu'effectivement il faut encore mettre le paquet, parce qu'on a 7 millions d'habitants qui habitent dans la zone dense, dans cette agglomération parisienne,
et
les transports n'ont pas suivi
sur la Grande Couronne,
la densité. Il y a la Grande Couronne, mais il y a aussi cette zone dense avec ses 7 millions d'habitants, et là c'est tout le plan d'abord, tout le Grand Paris Express, c'est-à-dire toutes ces liaisons de banlieue à banlieue qui évitent à un certain nombre d'habitants de la banlieue de passer par Paris pour rejoindre un autre point de la banlieue. Et donc, tout cela est engagé aujourd'hui. Mais vous savez, j'entends ce que vous dites. Il faut qu'on change de comportement. Voilà. Et qu'on change de comportement.
Est-ce que vous comprenez comme
ça? Parce qu'on ne peut pas signer un accord sur le climat, reconnaître que la pollution fait 48 000 morts par an en France, dont 6 600 en métropole francilienne et 2 500 à Paris, et se dire il est urgent d'attendre que tout soit prêt pour qu'on puisse enfin dire que on roule plus avec des voitures
mais
diesel.
Mais ce décalage crée aussi un sentiment d'injustice, finalement.
Non, mais faut arrêter de poser les choses comme ça. Il faut toujours objectiver le débat. Vous savez, nous, on a fait une grande étude d'impact sur, par exemple, les effets de la fermeture des voies sur berge aux voitures à partir du 20 juillet sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, vous savez, il n'y a que 7% de véhicules qui viennent de la Grande Couronne, de grandes banlieues, qui viennent dans l'hypercentre de Paris. C'est surtout trafic parisien ou de très proches banlieues qui vient dans l'hypercentre. Et on va faire comme dans toutes les grandes villes du monde, les villes ne peuvent plus être traversées par des autoroutes urbaines. Bon, alors, Il faut changer.
Sur ces chiffres, Anne Hidalgo, certains maires de banlieue notamment demandent une étude du préfet de Paris.
Mais on fait ça avec le préfet, vous savez, puisqu'aujourd'hui, c'est là où il faut objectiver les choses. Moi, je veux bien que certains continuent à dire « Ah ben oui, mais si on restreint la circulation, ça va créer des bouchons ». Non, c'est faux. Et tout ça est étudié par Air Paris, par des études indépendantes qui ont fait les analyses de circulation avec le préfet de police, puisque aujourd'hui, c'est encore le préfet de police qui doit donner son autorisation sur ce type de d'initiatives qu'on est en train de prendre et qui sont structurantes et fondamentales dans la lutte contre la pollution.
Frédéric Mettezeau, du service politique de France Inter.
Oui, Madame Hidalgo, puisque vous souhaitez objectiver les choses, je voulais évoquer ces statistiques qui ont été publiées il y a quelques jours par l'INSEE, qui nous expliquent que les métropoles, que ce soit Paris, mais Rennes, Nantes, Montpellier, Lille, etc., ces métropoles aspirent de la richesse parce qu'elles sont attractives au détriment du reste des régions. C'est une tendance lourde. Est-ce que cette tendance est encore réversible ou est-ce que l'idée même de ville-monde pour Paris, mais on pourrait aussi parler de grandes villes comme Marseille ou Montpellier ou Bordeaux, eh bien, est-ce que ces tendances très marquées de ville-monde ne va pas continuer à voir une France à deux vitesses? Et on est au cœur de ce débat aussi avec les transports dont vous parliez.
D'abord,
les cartes sont éloquentes.
D'abord, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un phénomène mondial qui est l'attractivité des villes et des métropoles vers lesquelles, ça a été dit tout à l'heure, convergent à la fois des populations qui vont très bien, des jeunes actifs, diplômés, toutes les catégories de population très créative, mais aussi des gens qui vont moins bien. Tous les délaissés de la mondialisation, les réfugiés, les SDF, viennent vers nos villes. Donc nos villes assurent et la production de valeur et la protection de ces populations qui viennent aussi dans les villes.
Ce que raconte Christophe Guy, lui, par exemple.
Voilà. Deuxièmement, nos villes produisent beaucoup de richesses, mais en redistribuent énormément. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le budget fait à partir des contributions des Parisiens, les impôts des Parisiens pour leur ville. 25% de ce qui est redistribué à l'échelle nationale provient directement de l'impôt des Parisiens pour leur ville. Pas de l'impôt sur le revenu, de l'impôt des Parisiens local pour leur ville. Donc il y a des systèmes que l'on appelle de péréquation, qui sont des systèmes très lourds. Paris, c'est plus de 500 millions d'euros chaque année prélevés sur notre budget qui est redistribué sur la France entière d'autres villes et qui est repris dans le budget de l'État. Et aujourd'hui, par exemple, si vous prenez à Paris 500 millions d'euros de redistribution, moins de 600 millions d'euros de dotation de l'État et de financement des prestations que l'État devrait financer qui reviennent à la ville. Donc, il y a ce phénomène. Moi, je pense que ce phénomène est intéressant. C'est pas une France à deux vitesses. C'est pas d'un côté les laisser pour compte. Il faut réfléchir et repenser la ruralité, le rôle effectivement des territoires ruraux dans notre pays, à la fois pour l'alimentation des populations du pays et des populations urbaines, mais aussi dans un rôle très important de préservation de nos ressources naturelles et de la nature. Donc, il faut repenser ce rôle-là sans l'opposer en permanence à celui des villes, mais ce phénomène est mondial.
Anne Hidalgo,
plus de 50% de la population mondiale habite aujourd'hui dans les villes.
Vous parliez de Paris, terre d'accueil. Une question pour vous, Sonia de Noisy-le-Grand. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous avez une question sur les migrants, je crois.
Oui, bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. J'étais à votre réception concernant les réfugiés. Très belle réception, je vous remercie. Mais la situation donc demeure vraiment très très difficile si on regarde les conditions devant Jaurès, à certains endroits.
Et donc, 350 migrants sous le métro à Jaurès.
Bien sûr.
Voilà.
Allez-y,
donc,
Sonia.
Donc, je voulais vous poser la question de comment allez-vous vous organiser avec la région pour installer une politique d'accueil qui respecte la dignité de tous ces migrants qui viennent vers nous, effectivement, expulsés, enfin, et fuyant des pays dans des conditions très, très difficiles. Hein, des femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Voilà.
Merci pour votre question. D'abord, c'est plus l'État. D'abord, c'est une compétence d'État. C'est à l'État de mettre à l'abri ces personnes. Nous, par exemple, ville de Paris, nous sommes aussi département de Paris. Nous mettons immédiatement à l'abri dès que puisque nous avons des maraudes, des gens qui vont sur tous les lieux de ces campements, nous mettons à l'abri les femmes et les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs aussi isolés qui viennent, qui sont tout seuls, des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans et pour lesquels nous avons avons la responsabilité de l'accueil. J'ai souhaité vraiment, parce que il y a un flux important de réfugiés, que l'on puisse mettre en place un camp qui permette l'accueil de tous ces réfugiés et qui permette d'abord de faire en sorte qu'ils se posent, qu'ils se reposent, qu'on puisse faire un point sur leurs droits, qu'on évalue aussi les conditions sanitaires qui sont les leurs. On a vu sur un campement sauvage récemment qu'il y avait des cas de tuberculose. J'en profite pour dire que lorsque la région supprime le financement, en tous les cas les aides au transport pour les personnes bénéficiaires de l'allocation médicale pour les étrangers, elle commet une faute, parce que, et même une faute vis-à-vis des populations non étrangères pour lesquelles on a une responsabilité sanitaire. Donc j'ai obtenu, et nous travaillons aujourd'hui avec Bernard Cazeneuve et Emmanuel Cos, pour que l'on puisse ouvrir ce lieu au nord de Paris. Je ne veux pas donner l'adresse parce que je souhaite vraiment qu'on puisse l'ouvrir dans de bonnes conditions au plus tard en septembre. Donc on est en train de faire tous les travaux d'aménagement pour accueillir environ 400 personnes à cet endroit-là. Et puis on a
une sorte d'anti-jungle de Calais,
un endroit qui soit vraiment un endroit digne de l'accueil. Vous savez, je trouve que les Européens ne se rendent pas compte. D'abord, quand on regarde ces images de réfugiés qui viennent sur l'Europe, ce sont nos albums de famille, à nous les Européens et à nous les Français. Est-ce que vous croyez que les Français, ils n'ont pas eux-mêmes accueilli, beaucoup d'entre nous sommes issus de ces histoires.
Donc
il
solide.
Nous faut répondre, il nous faut être vraiment dans une action humaine, humanitaire. Donc ce travail-là est en train de se faire. Est-ce que ça sera la réponse à tous les problèmes? Peut-être pas, mais nous avons, avec le ministre de l'Intérieur et la ministre du Logement, décidé aussi d'accélérer toute la filière d'accueil. C'est-à-dire que lorsque les gens obtiennent le statut de demandeur du droit d'asile, ensuite ils rentrent dans une forme de droit commun en matière de logement, en matière de travail. Et donc ensuite c'est France entière. Il y a beaucoup de maires qui ont dit nous on est prêts à accueillir des familles. Il y a des maires qui sont volontaires. Donc il faut travailler avec eux, mais ça nous impose d'accélérer, ce qui n'a pas été le cas ces derniers mois, et c'est pour ça que j'avais poussé un peu un coup de gueule, d'accélérer ce processus pour être vraiment dans un accueil digne aussi de notre pays.
Anne Hidalgo, il y a aussi des questions d'auditeurs sur Twitter. C'est Camille Magnard qui scrute pour nous. Alors Camille.
Oui, sur le hashtag interactif, pas mal de questions sur la pollution et la circulation à Paris. Mm-hmm. On y a répondu tout à l'heure. Et cette question aussi de Stéphane Lavignotte qui vous demande quand la réglementation permettra-t-elle de se baigner dans la Seine.
Alors vous savez que ça c'est vraiment un enjeu, y compris dans la candidature aux Jeux Olympiques. Ça sera un héritage écologique extraordinaire de la candidature de Paris 2024. Donc aujourd'hui, nous avons déjà au bassin de la Villette, c'est pas encore la Seine, mais le bassin de la Villette qui joue un rôle dans la qualité d'eau de baignade de la Seine, déjà un travail qui fait que on va pouvoir se baigner dès l'été prochain, mais qu'on a par exemple la semaine dernière fait une grande course en eau libre sur le bassin de la Villette. D'ailleurs, j'ai une de mes adjointes qui s'occupe de l'eau, Célia Bloel, que je veux vraiment saluer parce qu'elle a nagé. Voilà. Dans le bassin de la Villette. Donc voilà, je ne lui avais pas du tout imposé, mais elle y est allée.
Ça va, elle est pas
et
malade.
On va avoir aussi, elle est pas malade. Et on va avoir aussi un autre endroit très important pour nous, dans lequel on va pouvoir nager d'ici 2019. C'est le lac Daumesnil au bois de Vincennes, qui va être aussi vraiment un espace magnifique de baignade pour les Parisiens et les Franciliens. Et donc se baigner dans la Seine, pour moi, c'est caler sur l'agenda des JO, donc 2024, bien évidemment.
On parle des JO, on parle de sport, justement. L'Euro avec les incidents de supporters, les Russes qui ont été expulsés, qui sont revenus, etc. Ça ne va pas vous porter préjudice, ça ?
Oh, pas du tout. Surtout, c'est une grande réussite, l'Euro, parce que vous savez, accueillir dans un contexte de menaces, d'attentats, comme on l'a connu, dans des conditions exceptionnelles, comme finalement, bien sûr, il y a eu des débordements à Marseille, il y a eu quelques échauffourées avec des gens qui n'avaient n'arrivait pas à rentrer dans la fan zone pour la finale. Mais ça a été une réussite saluée de tous.
Vous allez vous en vous servir savez, pour les JO justement.
À l'étranger, bien sûr. Vous savez, beaucoup d'observateurs qui auront leur mot à dire hein, sur la décision concernant les Jeux à Paris nous ont dit qu'ils étaient impressionnés par la capacité de Paris et de notre pays, puisque ça ne s'est pas passé qu'à Paris, de surmonter les crises qu'on a vécues. Ce qu'on appelle la capacité de résilience de notre ville, c'est un élément très fort, y compris dans le dossier des Jeux.
Anne Hidalgo, merci beaucoup de dossier. On n'a pas pu tout, tout balayer, il y a trop de choses. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter, la maire de Paris. Nous, avant de faire le grand saut dans l'univers, on fait une petite pause.